Cécile Bara.
C'est pas du vent, deuxième partie. Nous parlons aujourd'hui du fait que plus du tiers de l'humanité n'a pas accès à des sanitaires décents. Nous avons vu dans la première partie le fait que de se soulager en pleine nature ou dans des sacs plastiques jetés n'importe où a des conséquences catastrophiques pour la santé. Les excréments et les urines qui contiennent des virus et des bactéries contaminent l'eau des alentours et les mouches qui se posent dessus peuvent contaminer aussi la nourriture, par exemple. Mais il y a aussi des conséquences sociales, environnementales et économiques que nous allons aborder maintenant avec nos invités avant de voir les solutions pour faire évoluer cette situation. Avec moi dans le studio 155 de la Maison de la Radio, Andrea Matusakova, coordinatrice de la coalition Eau qui regroupe 29 ONG françaises actives dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. À ses côtés, Loïc Monjour, professeur de médecine tropicale, président de l'ONG East, Eau, Agriculture, Santé en milieu tropical et membre de l'Académie de l'eau. Et trois intervenants par téléphone, Idrissa Doucouré, directeur général du Centre Régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût, le CREPA qui intervient dans 17 pays en Afrique, Juste Herman Nantes, de l'association Eau Vive qui travaille sur l'assainissement au Burkina Faso, et Thierry Imbert, secrétaire général de Solidarité Eau Europe, une ONG qui intervient sur ce sujet en Europe de l'Est et qui est en ligne avec nous depuis Chișinău, la capitale de la Moldavie. Loïc Monjour, pour expliquer quelles sont les conséquences de l'absence sanitaire sur l'environnement, il faut peut-être commencer par ce qu'on appelle le terme assainissement. Est-ce que vous pouvez nous définir l'assainissement ?
L'assainissement, c'est une action de rendre sain et de rendre propre. Il faut savoir aussi que c'est le meilleur indicateur de progrès, avec, outre bien sûr l'éducation et l'approvisionnement en eau potable aussi, qui est un grand indicateur de progrès. Mais tout ceci, pour quelle raison ? En fait, c'est pour apporter un meilleur confort et une meilleure santé à la population.
C'est ça l'assainissement, et on comprend bien que c'est essentiel. Alors je disais, il y a des conséquences sociales à cette absence de toilettes et de sanitaires décents pour toutes ces personnes. Andrea Matusakova, par exemple, vous avez de nombreux exemples de conséquences sociales.
En fait, il y a des conséquences sociales auxquelles souvent on ne pense pas. Par exemple, le fait de ne pas avoir un système d'assainissement, c'est aussi des écoles sans toilettes. Et cette l'absence des sanitaires contribue aussi à une plus faible scolarisation, notamment des filles, parce que les filles ont besoin souvent de se cacher pour aller aux toilettes, surtout quand elles arrivent à l'âge de puberté. Et près de 200 millions de jours d'absence à l'école par an sont directement liés aux maladies causées par le manque de l'assainissement.
Juste Herman Nancy, vous constatez cette absence scolaire au Burkina Faso ?
La situation elle est identique ici. Le fait de ne pas disposer de latrine en milieu scolaire, ça pénalise terriblement les enfants. Et en plus, on ne leur donne pas les bonnes attitudes. Le milieu scolaire étant l'endroit où ils apprennent les bons comportements, s'il n'y a pas de latrine, ils viennent et puis ils gardent les mauvais comportements. Mais je voudrais aussi rajouter, il y a d'autres conséquences sociales assez anecdotique, mais qui illustre assez bien la délicatesse du problème de l'assainissement. Il y a une communauté dans laquelle nous, on a conduit un projet d'assainissement. Et au moment de l'évaluation, en discutant avec les femmes, elles indiquaient que justement, grâce au progrès que le village a accompli en matière d'assainissement, ils pourront alors avoir des femmes, des filles, des villages voisins qui accepteront de venir se marier dans leur village. Parce que auparavant, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'assainissement. Aucune femme ne voulait aller se marier avec les hommes de ce village.
Thierry Imbert, en Moldavie, on constate le même problème ?
On constate le même problème, tout à fait. Directement, parce que l'enfant s'est contaminé en faisant ses petits besoins et ses grands besoins dans des installations complètement déplorables. Et aussi parce que l'eau qui est à disposition pour boire est contaminée par ces mêmes installations.
Et ce qui est terrible, on vient de l'entendre, c'est parce que c'est que ce sont les filles qui, là aussi, sont les premières victimes. Loïc, bonjour, sur le problème de l'école.
Oui, alors sur le problème de l'école, une notion essentielle qui ne passe pas trop à travers les associations, mais maintenant, si l'on fait un programme d'assainissement dans les écoles, c'est-à-dire si l'on installe des latrines, il faut absolument faire un mur autour de l'école. Parce que de toute façon, les élèves ne vont pas à la latrine, même si elle est construite et si l'école est ouverte. Ils vont encore dans les champs parce que c'est leur habitude habituelle. Un mur, c'est un mur de contention dont les élèves sont obligés d'aller à la latrine. Et comme ils ne défèquent pas dans la nature, où les mains sont souillées, bien évidemment, puisqu'il n'y a rien pour s'essuyer, ils vont trouver quand il y a un mur d'enceinte, une latrine avec un seau ou une bouilloire, du savon, et à ce moment-là, ils vont se laver les mains. Et donc, il y aura déjà une hygiène extrêmement importante.
Voilà, et là, on résout de nombreux problèmes.
Et en plus, alors, j'ajoute aussi que, à ce moment-là, le mur protège aussi les enfants dans les écoles, et qu'il y a en fait, pour les parents, la satisfaction de voir leurs filles dans des meilleures conditions d'hygiène, et aussi une protection contre le milieu extérieur, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à faire dans les écoles et qui viennent se promener ou vendre des produits alimentaires.
Voilà. Idrissa Doucouré, est-ce que c'est un sujet que vous abordez, par exemple, avec les 17 pays avec lesquels vous travaillez en Afrique, ce lien entre assainissement et scolarisation ?
Oui, en fait, je pense que ceux qui m'ont précédé ont fait notamment sur la baisse de la scolarisation des enfants. Et au-delà de ça également, l'autre argument que nous voulons mettre en avant en Afrique, c'est également l'impact économique. Parce que malheureusement, les gens n'y pensent pas souvent, mais l'impact des problèmes d'accès aux toilettes est considérable sur le plan économique. Si l'accès universel à des services d'eau potable et d'assainissement de base était un acquis, la diminution des infections d'Aix à elle seule ferait économiser 11,6 milliards de dollars en traitement au secteur de la santé et gagner plus de 5,6 milliards de journées productives chaque année. Alors, quand on additionne les gains potentiels qu'apporteraient des installations d'adduction d'eau et d'assainissement de base, qui peuvent être mises en place à moindre coût, on en conclut que les pays en développement, surtout en Afrique, pourraient économiser jusqu'à 263 milliards de dollars par an. Mmh. Et je pense que ce chiffre-là n'est pas souvent disponible.
Donc, 263 milliards de dollars par an.
Donc, 1 dollar investi dans l'assainissement et l'eau potable ramènerait 8 dollars. Donc, il n'y a pas un choix aussi judicieux d'investissement pour faire développer un pays.
Oui, mais alors comment est-ce que vous l'expliquez, par exemple, juste Herman Nancy au Burkina Faso, est-ce que vous avez l'impression que les autorités qui ont un code d'assainissement, hein, il y a un code d'assainissement au Burkina Faso, vous dites non Loïc Monjour, mais si, il me semble bien.
Non. Alors là, c'est le gros problème, parce qu'on ne peut avancer aussi que sous la contrainte. Hein, la contrainte, tous les pays d'Europe l'ont connue. On était obligé de mettre les ordures dans les poubelles. Hein, on est obligé de faire attention à la pureté de l'air, le problème des voitures, par exemple, etc. Donc, il y a créé depuis très longtemps, depuis justement cette période d'éveil sanitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, des codes d'hygiène gouvernementaux. Eh ben, ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas appliqués en Afrique.
Ah oui, donc ils existent, mais ils ne sont pas appliqués.
Ils ne sont pas appliqués. Ils sont quelquefois dans les tiroirs du ministère de la Santé empoussiérés, mais ils ne sont pas sortis.
Je vais vous donner un exemple anecdotique de la Grande-Bretagne. Comment ils ont décidé l'assainissement en Grande-Bretagne au 19e siècle par le mouvement hygiéniste dont M. Monjour parlait? C'est parce que pendant l'été, les parlementaires devaient siéger, et comme vous savez, à Londres, les bâtiments de House of Lords and House of Commons et près de la Tamise, et la rivière Tamise sentait tellement mauvais que malgré les fenêtres fermées, ils arrivaient pas à discuter et à faire leur travail. Et donc ils se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on assainisse cette rivière, il faut qu'on assainisse cette ville. Et donc c'est à partir de ce moment-là où les hommes politiques ont senti directement les conséquences de manque de l'assainissement dans leur vie, où ils ont pris la décision d'assainir la rivière Tamise et d'assainir la ville de Londres. Et
là, ce que vous voulez dire, c'est qu'en gros, à partir du moment où les dirigeants eux-mêmes ont des infrastructures sanitaires qui leur conviennent, que le reste de la population n'en ait pas, ça n'incite pas à prendre des décisions politiques fortes. Idrissa Doucouré, vous êtes d'accord avec ce discours ?
Oui, en fait, je pense que l'autre élément des décisions également, c'est que l'assainissement, c'est pas encore un secteur attractif. C'est-à-dire que ce n'est pas un secteur qui peut mobiliser des voix électorales.
C'est-à-dire que pour les populations, ce n'est pas essentiel.
Donc il faut amener les populations à comprendre le besoin et la nécessité d'assainir et de demander le service. À partir de ce moment-là, les populations peuvent mettre maintenant la pression sur les décideurs.
Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de revendication de la part des citoyens pour avoir accès à des toilettes.
C'est un sujet tabou, que c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission. Les gens ne le revendiquent pas parce que souvent c'est un sujet tabou pour eux. Donc on ne parle pas de l'assainissement, on ne dit pas qu'on va aux toilettes. Et donc du coup, c'est quelque chose de difficile à revendiquer.
Juste Herman Nancy, vous me disiez en préparant cette émission que par exemple au Burkina Faso, certaines personnes préfèrent s'acheter un téléphone portable plutôt que de se payer des toilettes.
Ah, ça, c'est une réalité. On l'observe dans certaines localités, dans certaines communautés rurales, où nous venons, après avoir analysé les statistiques qui indiquent clairement que la situation de l'assainissement est dramatique, et on se rend compte que pendant la séance de travail, il y en a qui décrochent leur téléphone portable. Et juste pour animer la séance, on leur demande, est-ce que vous, au moins, vous êtes équipé de latrine? Mais non. C'est un constat. Et je pense que c'est effectif ce que viennent de dire les prédécesseurs, comme quoi ce n'est pas encore une demande, une requête, une revendication. Et c'est en cela que je voudrais atténuer l'analyse qui dit qu'il y a une absence de sanctions. Bah, si les gens ne savent même pas, ils se rendent pas compte de l'importance que ça a, il y a encore un temps de sensibilisation à conduire avant, éventuellement, et je serais tout à fait d'accord, de mettre en place des mesures répressives, des sanctions pour ceux qui ne suivent pas. Mais comme je l'indique plutôt, on vient de très loin et donc on est encore à l'étape où il faut le faire comprendre et avant de passer dans une étape ultérieure à la sanction, à la répression, à la contrainte pour accepter ou pour adopter l'assainissement.
Thierry Imbert, vous dites aussi qu'en Moldavie, on préfère s'acheter un téléphone portable plutôt que d'investir dans des toilettes décentes pour sa maison.
Tout à fait. On y est même poussé par le commerce, par les publicités qui vous forcent à consommer de la téléphonie, à consommer du modernisme. Et puis l'assainissement en tant que tel, politiquement, c'est pas sexy. Même chez nous, en Europe de l'Ouest, c'est pas sexy. Vous êtes au niveau communal, vous arrivez péniblement à faire passer de la rénovation des réseaux d'égouts, alors que faire une nouvelle route, vous aurez plus de facilité à faire passer ça au niveau politique.
Mais alors justement, est-ce qu'il y a les mêmes réticences en Europe de l'Est qu'en Afrique pour investir sur ces sujets-là?
Je dirais que le cas de l'Europe de l'Est, il est un peu différent. C'est qu'il y a 20 ans en arrière, quand l'Union soviétique était écroulée, l'état d'infrastructure était assez bon. Et tout s'est écroulé et maintenant les pays sont occupés, pour ceux qui sont dans l'Union européenne, à rattraper le retard qu'ils ont pris par cette chute. Ceux qui ne le sont pas, comme la Moldavie, l'Ukraine, ont encore des tensions et des problèmes politiques à régler pour se décider est-ce qu'on va vers l'Est ou vers l'Ouest. Et ça occupe le plan politique tellement que les questions d'assainissement passent directement en second plan. Il y a la relance économique à faire, l'agriculture s'est tellement désintégrée que ces pays n'arrivent plus à produire de manière correcte et exporter leurs produits qui pourraient combler la demande en Europe. C'est ce qui a fait que l'assainissement recule dans les priorités de ces pays.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, on parle aujourd'hui de l'accès aux toilettes dans le monde. On se retrouve après une petite pause musicale. Dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons du fait que 2 milliards 600 millions de personnes n'ont pas accès à des toilettes décentes dans le monde, ce qui est catastrophique pour la santé des populations et pour l'environnement, on l'a vu, et aussi avec des conséquences sociales importantes, notamment en termes de scolarisation. Pourtant, il existe de nombreuses solutions simples et peu coûteuses. Par exemple, comme les icotoilettes inventées par David Kouria, qui a inventé ces icotoilettes à Nairobi, au Kenya. Il en a construit une quarantaine qui sont utilisées par environ 5 millions de personnes par an.
La situation dans les bidonvilles fait peur. Il y a une très forte densité de population. Dans certains endroits, les gens pratiquent la défécation à ciel ouvert. Ailleurs, il y a des toilettes volantes, c'est-à-dire que les gens défèquent dans des sacs en plastique et les jettent. Et il y a des endroits où il n'y a absolument pas de toilettes du tout. L'idée de Eco-Toilette, c'est comment se mettre à penser que les toilettes ne sont pas seulement là pour faire ses besoins. Vous pouvez aller aux toilettes pour acheter le journal, ce qui du coup veut dire que la vente du journal subventionne l'utilisation des toilettes. Selon nos calculs, si on demande 10 ou 15 shillings l'entrée, cela sera rentable. Mais c'est beaucoup trop cher. Donc c'est cela qu'on a dit à la municipalité. Autorisez-nous à penser un peu au-delà. Ce ne sont pas seulement des toilettes. Pour moi, c'est comme un point de sociabilité, une signature dans la ville à laquelle les gens peuvent se référer parce que c'est pratique.
Si vous voulez en savoir plus sur ces éco-toilettes, vous pouvez réécouter le reportage de Stéphanie Braqueuet que nous avons diffusé hier dans C'est pas du vent. Vous le retrouverez aussi sur le site www.rfi.fr. Juste Herman Nancy, avec votre ONG Eau Vive au Burkina Faso, vous mettez en place donc des toilettes dans à peu près 25 communes réparties dans le pays. Comment vous vous y prenez ?
Le travail initial, c'est d'abord d'éveiller la conscience des élus, des autorités locales qui ont, dans le cadre de la décentralisation, la compétence pour organiser, promouvoir l'assainissement sur leur territoire. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Dans ces 25 communes où nous allons travailler au cours des 4 prochaines années, un sondage nous a permis de comprendre rapidement que la problématique de l'assainissement était très très mal appréhendée par les élus. Parce que quand on leur demande qu'est-ce que vous entendez par l'assainissement, ils se réfèrent beaucoup plus à la gestion des déchets solides ménagers.
Mais alors justement, pour sensibiliser, vous faites le lien entre les toilettes et l'agriculture, et ça, c'est un message qui passe bien. Alors expliquez-nous comment on fait le lien entre les deux. En fait, c'est à travers la récupération.
Bah, ça, c'est l'une des opportunités. La problématique de l'assainissement, c'est que à chaque fois qu'on l'aborde, il faut bien l'adapter aux réalités sociales et économiques qu'on rencontre dans le milieu. Donc, relier l'assainissement et l'agriculture, c'est une option qui n'est pas valable partout. Mais dans les localités où les gens ils font déjà du maraîchage et ils essaient de récupérer des déchets, des excréments de bouse de vache pour faire cette activité, et que progressivement, avec l'éloignement des troupeaux, ils ont des difficultés à y avoir accès, ou avec la proximité urbaine, ils ne peuvent plus conduire les activités d'élevage, ça s'offre la valorisation des excréments, s'offre comme une opportunité, et dans ces localités, effectivement, on arrive à introduire les modèles de latrines baptisées écossaises, qui ont été justement promus par le CREPA, ce modèle arrive à passer. Donc effectivement, ça c'est l'une des possibilités. Mais il y a d'autres localités dans lesquelles c'est totalement impensable de relier les excréments humains à de l'alimentation. Donc il ne faut surtout pas aller sur ce terrain.
Bien sûr. Alors Idrissa Kouré, hein, le principe de ces éco-san, faut l'expliquer, il est simple et il marche bien. C'est deux trous, hein. Un petit pour les urines, un gros pour les excréments. On récupère et on peut après remettre, une fois que les excréments ont séché, ou je crois que les urines, c'est au bout de 15 jours dans des bidons, on peut les épandre sur les cultures, parce que l'urine, c'est une vraie source d'azote. Hein.
Le problème qu'on avait tout à fait au début, c'était d'amener les populations à voir le lien entre la santé et l'assainissement, ce qui n'était pas tout à fait évident. Mais aujourd'hui, ils voient le lien entre l'assainissement et produire plus et produire mieux. Donc il y a le couple intérêt-action. Et là, dans ce concept-là, nous ne considérons plus les extras comme des déchets, mais plutôt comme des ressources que nous devons valoriser. Et que, donc, ça, c'est faire que l'assainissement prenne en compte toute la dimension écologique, l'homme dans son environnement. Donc, les questions de durabilité sont comptes, notamment les aspects socio-économiques et culturels, technologiques, environnementaux, hygiéniques et sanitaires, institutionnels.
Et il existe de nombreux modèles de toilettes, hein, vous-même, dans votre centre de recherche, donc vous en produisez. Thierry Imbert, en Moldavie, est-ce que vous faites le lien en milieu rural entre récupération des excréments et de l'urée et distribution de toilettes, ou en tout cas construction de toilettes ?
Il y a un lien qui a été fait déjà depuis 3 ans, aussi sur base de toilettes Ecosham, qui est au fait à la base très simple, mais qui a... trouve beaucoup de résistance au niveau politique. L'Union soviétique était dirigée par des règlements, des standards de construction très stricts, inflexibles, et qui la communauté d'ingénieurs et de contrôleurs d'État n'a pas encore accepté comme solution. L'alternative est de trouver quelque chose que la communauté ou le ménage puisse gérer, autogérer sans apport extérieur. Nous pensons que dans certains cas où il y a une totale absence d'eau potable et d'eau tout court, la Moldavie est en phase de déshydratation, si je peux m'exprimer ainsi, ce type de toilette dite sèche à séparation est une solution très, très, très prometteuse. Là, vous avez déjà un réseau d'eau existant, ce sera difficile de convaincre les gens de ne pas avoir le dernier cri toilette dite à chasse d'eau. Mmh. Donc là, il faut trouver des solutions extensibles qui permettent aussi à gérer à la communauté des petites stations d'épuration autogérées sans beaucoup de technologie.
Alors expliquez-nous comment fonctionnent ces toilettes sèches, parce que ce n'est pas toujours très connu.
Alors, il y a différents types de toilettes sèches. Hein. C'est au fait, ça veut dire que c'est une absence d'eau. La partie la plus importante, c'est que justement la pollution créée par nos défécations et l'urine soit éliminée, soit sur place. Vous pouvez utiliser ça avec des verres, vous pouvez utiliser ça avec du compost, vous pouvez utiliser ça en déshydratation. Il y a différents modèles qui permettent, selon le climat, selon la topographie, d'appliquer. Mais l'essentiel, sèche, veut dire absence d'eau, absence de répartition de polluants dans le milieu naturel.
Andréa Matusakova.
Oui, effectivement, par rapport à ce que vient de dire Thierry et mes autres collègues, l'assainissement, c'est aussi un secteur économique très porteur et très exploitable. Par exemple, GRET, qui est aussi une ONG membre de la coalition Eau, a des projets au Cambodge qui sont liés à Sani Marché, c'est-à-dire la construction des toilettes, la vidange des toilettes et l'utilisation des excréments pour le secteur de l'agriculture. Donc, il y a des maçons qui sont formés pour construire les toilettes. Il y a quelqu'un qui est employé pour les vidanger et amener les excréments aux agriculteurs qui sèchent ces excréments et qui les utilisent ensuite comme fertiliseurs ou pour faire pousser la nourriture. Donc, si c'est bien accepté et si c'est bien utilisé, cela peut avoir des conséquences économiques très bénéfiques.
Oui, c'est ce qui fait dire à l'Organisation mondiale de la santé, hein, Idrissa Gouré le rappelait tout à l'heure, que $1 investi dans l'assainissement rapporte $9.
Voilà, $9 en termes de la population qui est en bonne santé, en termes des jeunes qui vont à l'école, en termes de création de l'emploi et en termes alimentaires.
Donc on voit bien que finalement, c'est une question de barrière mentale à franchir. Loïc Manjour, vous qui avez 25 ans d'expérience en Afrique et en Asie sur ces sujets-là, est-ce que vous diriez que c'est plus un problème de mentalité que d'enjeux économiques ?
Non, je pense qu'il y a aussi un gros enjeu financier.
Bien oui, mais si ça peut rapporter de l'argent et des emplois.
D'accord, ça rapportera de l'argent à des maçons locaux qui fabriquent ces toilettes en général. Hein. Mais le problème, c'est pour les familles de payer les toilettes. Ça coûte assez cher quand même. Et donc, il y a eu des propositions qui ont été faites, notamment d'offrir aux familles la dalle, si vous voulez, le support donc des toilettes. Et ensuite, donc, les maçons locaux pouvaient établir une superstructure, etc. Enfin, ça a été proposé comme ça. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il y a un très fort désir, notamment dans les quartiers périurbains des villes, de ces toilettes, parce que là, vous comprenez qu'au milieu de la population, il faut quand même avoir un moyen pour faire ses besoins. On peut pas faire ses besoins partout. Et donc, là, il y a un très fort désir. Et je pense que dans les années à venir, les gens achèteront moins de téléphones portables et feront plus de toilettes familiales.
Pour conclure, Andréa Matusakova, pour le financement, il y a quand même des solutions. Hein. C'est la loi Oudin qui date de 2005 en France, rapidement.
Mm-hmm. Alors, en 2005, la France, elle s'est dotée de la loi Oudin-Santini qui permet aux collectivités territoriales d'investir et aux agences de l'eau aussi de consacrer jusqu'à 1% de leur budget eau et assainissement à la coopération internationale.
Ça peut permettre de créer des ponts entre les villes de France et les villes du Sud qui auraient besoin d'assainissement. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de villes françaises qui ont consacré ces 1% à cette coopération ?
Donc la loi, elle a été votée en 2005. Ça prend un moment que la loi se met en place. Les premières études sur les conséquences ont eu lieu en 2009. Il y a eu 18 millions d'euros de dons, donc il s'agit de dons, qui ont été mobilisés dans le cadre de cette loi pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors
18 millions sur un potentiel de 60 millions, donc il y a encore
voilà,
de la marge.
Donc il y a encore de la marge, mais il faut savoir qu'il y a un effet levier qui est assez important. 1 euro apporté par une collectivité permet de mobiliser 3 euros de cofinancement par l'agence de l'eau, par un syndicat mixte de l'eau, des eaux, par une ONG, par un acteur privé. Donc, il y a une possibilité d'avancer et de créer les liens de solidarité entre le Nord et le Sud.
Et vous vouliez conclure avec le rôle que peuvent jouer les Nations Unies dans ce domaine ?
Voilà, j'ai envie de dire que maintenant, il n'y a plus de raison de dire que c'est pas possible et tout ça, parce que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est désormais reconnu par les Nations Unies depuis septembre dernier comme un droit de l'homme lié au droit à un niveau de vie adéquat. C'est-à-dire que maintenant que c'est reconnu par les Nations Unies, il s'agit maintenant de travailler à mettre en œuvre effectivement cet droit dans les politiques nationales et locales.
Et on a bien compris que c'était pas très simple, mais que c'était sur la bonne voie et qu'il y avait donc plein de solutions, en tout cas à notre disposition. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Toutes vos coordonnées et celles de vos associations sont disponibles sur la page internet de l'émission, sur le site de RFI, www.rfi.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et réagir ou communiquer avec nous sur la page Facebook de l'émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation. La semaine prochaine, nous verrons si nous serons capables de nous nourrir quand nous serons 9 milliards en 2050, tout en préservant la planète. À samedi prochain donc, même planète, même heure.